Nous avons du beurre, du sucre, des œufs, des raisins de Corinthe, des fruits hachés confits.
Le Christmas cake est un gâteau assez compact.
Là, c'est le moment où je vais pouvoir parfumer et personnaliser mon cake.
J'ai fait un cake courgette carotte.
Oh, joli.
C'est important qu'un cake soit dodu. Pour être sûr qu'il éclate comme il faut, la petite astuce, vous prenez votre cake et vous mettez un trait de beurre au milieu. Je fais plein de gâteaux dans cette maison. J'ai une carte qui est dingue. Et aujourd'hui, les gens me parlent du marbré, quoi.
C'est un genre de cake.
Mais un cake magique ?
Non, c'est un cake. C'est pour la route.
Bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Vous l'aurez compris, il y a du cake au menu du jour. Le cake aux fruits confits que nous préparait mamie. Le cake olive jambon de l'apéro chez Tante Raymonde. Mais il va falloir désormais aussi compter avec les cakes décoiffants de Jean Sulpice. Bonjour.
Bonjour.
On est ravis de vous retrouver, Jean Sulpice, sur le plateau dont on va déguster. D'habitude, c'est nous qui venons à vous, à Annecy. Là, c'est vous qui avez fait la route pour venir jusqu'à nos studios de France Inter. 2 étoiles au guide Michelin à l'auberge du Père Bise. C'est une maison historique, hein, posée sur le lac d'Annecy. Un rêve absolu que vous tenez avec votre femme.
Tout à fait, avec Magali.
Magali, absolument, que l'on salue. Et vous publiez ces jours-ci Cake aux éditions Flammarion. Un sacré bouquin que j'ai à mes côtés. 50 recettes salées et sucrées, traditionnelles ou créatives. On va même voir que vous êtes allé très loin dans la créativité de vos cakes, hein, n'est-ce pas ?
Oui.
Vous avez passé quelques nuits blanches à réfléchir.
Non, j'ai vraiment pris du plaisir à essayer de sortir cet appareil à cake du moule et lui apporter une créativité et une originalité folle.
Et le résultat est dans nos assiettes. Vous allez voir, ça va vraiment percuter. On a de très belles recettes qu'on va vous expliquer, chers auditeurs. Comment un mot anglais s'est taillé une place de choix dans la cuisine française, notre historien maison a investigué. Bonjour Loïc Bienassi.
Bonjour.
Chercheur à l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation à l'Université de Tours, IEHCA. Pas trop dur ces recherches sur le cake ?
Quelques surprises, disons quelques surprises, des recettes diverses et puis un cheminement à retracer sur la longue durée.
Vous allez nous en parler dans un instant. À mes côtés pour m'accompagner pendant cette émission, mes chroniqueuses, Elvira Masson, bonjour.
Bonjour à tous et toutes.
Ça va ?
Ça va très bien. Et moi, je vous parle d'une recette, je ne pouvais pas faire autrement, qui était le péché mignon d'Elisabeth II.
Ah, absolument, il est question de cake dans un instant avec du chocolat. Hein.
Ouais, il y a du chocolat.
Et puis je suis ravi d'accueillir une petite nouvelle au micro dont on va déguster, c'est Justine Knapp. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes journaliste, Justine, journaliste gastronomique spécialisée dans le vin. Vous collaborez à Libération, la Revue du Vin de France, le magazine Regain. Vous viendrez régulièrement nous partager vos coups de cœur à ce micro et aujourd'hui dans nos verres.
Alors pour le vin, on va boire Montagnard, mais pas exactement dans votre Savoie adorée Jean Sulpice.
Mais pas très loin non plus, je crois savoir, j'ai déjà quelques indices. Que vous inspire le cake à la maison, un souvenir, une recette, réagissez en direct sur notre mail, on va déguster à radiofrance.com ou bien cliquez sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter pour retrouver tous les contenus de notre émission franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant de se tailler des tranches de cake, un coup de cœur d'été que je suis allé glaner en Corse, direction Cozzano. Nous sommes en Corse du Sud, tout en haut de la vallée du Taravo, à 700 mètres d'altitude. Je sais, Jean Sulpice, que vous êtes très sportif, donc ça veut dire que vous avez déjà fait le GR20, ce sentier mythique de randonnée.
Ouais, magnifique, un paysage époustouflant. Et un terroir fabuleux. On voit pas que les cochons qui traversent le GR20.
C'est ça.
Mais elle a plein de saveurs, de senteurs, des paysages de rêve.
Eh bien, écoutez, justement, le GR20 passe pas très loin d'une très belle adresse que j'ai découverte. Les randonneurs qui cherchent du réconfort après l'effort ont l'opportunité de s'attabler dans un endroit comme je les aime. Ça s'appelle chez Boca et c'est la nouvelle auberge de montagne de Sylvain Martinez Ciccolini et Maria Colombani.
On tenait à cœur d'être ouvert à l'année, avec des produits de saison, et mettre en valeur nos productions agricoles, puisque Sylvain fait du safran et moi je fais du miel.
Et on avait déjà créé une gamme de produits dérivés autour de nos produits, et puis on voulait aller plus loin, on voulait aller jusqu'à l'assiette. Et c'est ce qu'on peut faire maintenant depuis un an, et on est vraiment ravis. Comme on est ouvert toute l'année, il faut que notre cuisine elle parle aussi bien à des Corses qu'à des non-Corses. quand les dames du village viennent manger, il faut qu'elles soient... Ce qu'on aime, c'est les surprendre aussi un peu, parce qu'elles savent très bien faire la cuisine. Les gens sont contents, sont surpris. Et puis, bah, ils se rendent compte que finalement, ils mangent bien des produits locaux, ils mangent des produits de saison, et qu'ils mangent corse, presque sans s'en rendre compte. Et là, on est content quand tout le monde est content.
Alors, aujourd'hui, en entrée, on a des beignets de courgettes à la menthe, une salade de tomates ananas avec des haricots blancs, du citron confit maison, concombre, et notre vinaigre qui est muscat cédra, qui s'accorde assez bien avec le citron. Le veau. Alors, le veau, on a de la chance d'avoir un veau d'une excellente qualité de Polo Bianchi, qui est dans le golfe de Lava, qui est en bio, auquel on a ajouté notre bière. Donc, c'est un peu notre plat signature aussi. Alors, la bière, c'est pas forcément corse, mais ça le devient. En tout cas, dans notre auberge, elle est omniprésente. Et ensuite, on a rajouté un petit peu d'agrumes, toujours corse, de l'orange et des pommes de terre au four, tout simplement.
Vous me faites goûter quelque chose ?
Oui, la glace au miel. C'est ce qui m'a poussé à faire du miel et de la cuisine. C'est mon premier souvenir d'avoir mangé vraiment quelque chose de bon. Et aujourd'hui, je la fais.
Avec une texture qui a l'air bien onctueuse, ça sort directement de la turbine. Un miel très complexe.
On a la chance d'avoir beaucoup de bruyères en montagne. Après, il y a de l'asphodèle et il y a beaucoup, beaucoup de fleurs de montagne. Donc, on a un miel très riche qui marche très bien, aussi bien au petit déjeuner, tout simplement, sur des tartines, comme en cuisine. Ça donne toujours un petit peps que les gens remarquent en général.
Et en plus, là, depuis la cuisine, vous avez une très jolie vue sur les
forêt
et les montagnes environnantes.
Oui. Pour le coup, là, le rythme des saisons est toujours très marqué avec la forêt. Et l'automne, c'est encore plus joli.
Merci.
Merci infiniment.
Merci à vous.
Est-ce que je peux me permettre de vous déranger ?
Oui, vous êtes ?
Je suis journaliste.
Bonjour, Jean-Paul. On vient de passer toute la matinée sur le GR20 et on s'est arrêté pour déjeuner. On a vraiment passé un super moment. Des plats authentiques, pleins d'identité... Vraiment une belle expérience.
C'était très bon, très frais, ça fait du bien, après une bonne marche.
Merci, bon appétit.
Merci.
Merci.
On retourne ensemble avec Jean Sulpice chez Boca. Oui, Jean Sulpice ne fait pas que la cuisine, il ne fait pas que du vélo, il fait aussi de la randonnée. Donc on va l'emmener chez Boca, l'auberge de Sylvain et Maria à Cozzano. Toutes les matières premières, vous l'aurez compris, sont locales, paysannes, bio pour la plupart. Et en plus, les prix sur l'ardoise sont plus qu'honnêtes. Les entrées à 7 euros, les plats d'une générosité dingue à 13 euros, les desserts à 5 euros, tout est fait maison avec de très bons produits. Et cette auberge est aussi une micro-brasserie et j'ai versé dans vos verres. Une bière, et moi, vous savez que je suis joueur, il va falloir deviner à quoi est parfumée cette bière qui est vraiment brassée dans l'une des salles du restaurant. Une petite idée, Jean ?
Alors, je sais pas si c'est que j'ai mangé le cake au safran avant, mais elle a une petite saveur safranée. Je
vois, bravo. Et elle dira, elle m'a dit à l'oreille pendant le reportage.
Ils font du miel avec du safran, est-ce qu'ils se serviraient
alors,
il n'y
a pas de miel, effectivement, dans cette bière, mais en revanche,
on a la bouche pleine de safran. Et effectivement, comme on a déjà grignoté un petit morceau du cake salé de Jean, on ne sait pas trop si c'est la bière ou le cake de Jean.
Vous aimez ou pas, Justine ?
Ah oui, je trouve que c'est très rafraîchissant. La bulle, elle est bien fine. Mais après, l'ingrédient secret, je ne l'aurais peut-être pas trouvé, mais j'avais l'indice dans les cultures de cet endroit.
C'est une pale ale Zafaran, ou c'est le nom corse pour safran. Et c'est une bière que l'on peut trouver dans l'épicerie parce que, évidemment, attenante au restaurant, il y a également une petite épicerie où ils vendent tous leurs produits transformés. Voilà, ils font aussi du miel. Tiens, un pot, je l'offre à Justine.
Merci.
C'est le cadeau de bizutage de Justine. Un très beau
ça va, c'est
miel
pas méchant.
Corse. Et en parlant de miel, je voudrais vous révéler le lauréat 2022 du prix Mange Livre. Mange Livre, c'est un prix fondé par notre amie journaliste Marie-Laure Fréchet, qui récompense chaque année un livre abordant l'alimentation et la gastronomie durable. J'avais l'honneur de présider lundi dernier un jury prestigieux composé cette année des chefs Christophe Baquier, Guillaume Sanchez, Florent Pietraval, Édouard Chouteau, Nadia Samut et la chef pâtissière Nina Métayer. Nous avons délibéré à Lille, dans le restaurant La Laiterie, à Lambersart plus précisément, et notre choix s'est arrêté sur un livre passionnant, celui que je tiens à la main, Le Miel, une autre histoire de l'humanité, de Marie-Claire Frédéric, aux éditions Albin Michel. Marie-Claire
Grande
Frédéric, on la connaît bien.
Spécialiste de la lactofermentation notamment.
Absolument, on l'a reçu plusieurs fois à ce micro. Son livre, Ni cru, ni cuit, est devenu une référence, et là, elle propose un
travail impressionnant sur le miel, fruit de 4 ans de recherche tous azimuts dans les domaines historiques, écologiques, ethnographiques, sémantiques. Quand vous aurez lu ce livre et que vous plongerez votre cuillère dans un pot de miel, eh bien vous regarderez le miel autrement et vous vous rendrez compte que c'est beaucoup plus que du sucre cristallisé dans un pot. Le miel, une autre histoire de l'humanité. Marie-Claire Frédéric chez Albin Michel. En régie, pour mitonner cette émission en direct, Laurane Thomas avec Vincent Désir et Fabrice Rivaud. Dans un instant, le cake dans tous ses états avec les recettes de Jean Sulpice. Mais juste avant, un petit titre de circonstance. Alors là, je vous préviens, gros lobbying d'Elvira Masson et de notre réalisatrice Laurane Thomas pour passer, devinez quoi. Elvira Masson chantonne au micro, elle est dans son élément. Hein.
Cette merveille de recette de cake d'amour tirée du film Peau d'âne de Jacques Demy.
Chantée par...
Le rêve. Chantée, je ne sais plus comment elle s'appelle.
Anne Germain,
bien
souvenez.
Sûr. Ouais, ouais.
Mais c'est une
c'était
chanson
pas Catherine
Deneuve
qui
beaucoup.
Chantait, j'adore.
Et surtout, n'essayez pas, chers auditeurs, de tenter la recette de ce cake d'amour, parce qu'on s'y casse les dents, et d'autres avant nous s'y sont cassés les dents, c'est le cas de le dire. Parce que si vous prenez vraiment le déroulé, les proportions de la recette, je peux vous assurer qu'on obtient un parpaing, quoi. Un gâteau dur comme de la pierre. Alors Pierre Armé avait proposé une délicieuse interprétation il y a quelques années, mais qui vraiment prenait des libertés par rapport à la recette d'origine. Si on ouvre le petit Robert à la définition cake, on a cette définition-là, anglicisme, gâteau garni de raisins secs, de fruits confits, insulte, deux points, tranche de cake. Bon, alors on va voir que le cake avec vous, Jean Sulpice, ouvre carrément ses chakras. Qu'est-ce qui vous a pris ?
Ah, je suis passionné par la pâtisserie, par le sucré. Ce que j'adore dans ce gâteau, c'est qu'on peut prendre du plaisir à toute heure de la journée. Mm-hmm. Aussi bien tout de suite dès la première heure, quand tu te lèves ou tu viens faire un footing à jeun et que tu viens manger une tranche de cake qui trempe dans ton café. Et puis après, ça peut être pour accompagner une salade de fruits, une compote ou même
pour un petit tea time. Donc c'est un gâteau qui vous accompagne tout au long de la journée, et c'est ça vraiment qui m'a plu, à m'intéresser à ce gâteau et de lui apporter de l'originalité, des techniques de cuisson autres, de cuire à la vapeur, de cuire dans une cocotte, et d'apporter aussi des ingrédients qui vont lui apporter du goût et de la personnalité qui peut vraiment nous émerveiller.
Ce qu'il y a de très séduisant dans votre démarche, cher Jean, c'est que on a à la fois des recettes pas du tout intimidantes, même simples et très familiales. D'ailleurs, ça fait résonance à certains souvenirs. Et en même temps, il y a vraiment des petits défis techniques. Et comme vous le dites, vous avez multiplié les formes, les techniques de cuisson. Vous aviez vraiment envie de pousser le cake dans ses retranchements gastronomiques.
Exactement. Et puis, c'est aussi des produits qui sont accessibles. C'est des œufs, c'est de la farine. C'est du sucre, donc des ingrédients qu'on arrive tous à se procurer. Et c'est comme ça aussi qu'on représente de la grande cuisine, c'est avec des choses simples pour faire quelque chose de bon et de grand et de généreux. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans ce livre.
Il y a des cakes qui sont cuits dans un appareil à gaufres, des cakes cuits au creux d'une coquille d'huître. Alors là, il y a Loïc Bienassi qui est en train de lever les yeux au ciel.
Oh non,
l'historien,
tout,
garant de la définition rigoriste du cake dans notre répertoire. Loïc, il y a évidemment, on l'a vu, des variations infinies concernant le cake qui est finalement devenu un peu une appellation culinaire un peu fourre-tout. On a en droit de se demander ce qu'est, à l'origine ou dans sa version 20e siècle, un cake dans la cuisine française.
Oui, justement, à la limite, au contraire, je trouve que ça a toujours évolué. Alors, on a peut-être une définition un peu sanctuarisée qui a vu le jour, oui, fin du XXe siècle. Alors, moi aussi, je vais citer un dictionnaire de la Larousse gastronomique. Pâtisserie, donc le cake, pâtisserie qui, en France, se prépare selon une recette bien définie,
oui,
en forme parallélépipède. De parallélépipède.
Ah, il n'est pas presque arrivé.
Je savais que je comprenais.
Parallélépipédique.
Le cake est fait de pâtes additionnées de levures chimiques, garnies de fruits confits et de raisins secs, parsemées d'amandes effilées et cuites dans un moule spécial à bord haut, chemisé de papier sulfurisé.
Voilà. Donc là, on a quand même des indices à la fois,
exactement,
sur la forme, mais également sur les ingrédients que doit comporter un cake.
Absolument, c'est-à-dire qu'on a une pâte poussée, c'est-à-dire avec de la levure, on a cette forme, parallélépipédique, je suis fier de moi, et des fruits confits et des raisins secs. Donc là, on a en effet des critères. Mais comme d'habitude, je trouve ça assez audacieux de dire qu'on a une définition claire, une recette bien définie, parce que si on prend point par point, on voit que tout a toujours évolué. Et c'est pour ça que les libertés, en fait, finalement, ça fait partie de l'histoire de la cuisine, les libertés qu'on peut prendre avec une recette, ne serait-ce que la forme. La forme, on voit que le moule à cake, moi j'ai trouvé les premières occurrences tout début XXe siècle, je ne sais pas d'ailleurs de quelle forme il s'agissait. Ce qui est sûr, c'est que le moule à cake de version rectangulaire, j'abandonne mon parallélépipède, il émerge dans l'entre-deux-guerres, où là, cette forme-là est synonyme de cake. Et encore, si on prend un autre Larousse gastronomique, celui de 1938, on voit qu'il préconise cette forme, mais dit finalement, un moule carré ou un moule rond peut aussi faire l'affaire. Donc, c'est à partir de l'entre-deux-guerres que cette forme s'affirme, et puis, clairement, après-guerre, ça devient synonyme de cake. Que cette forme rectangulaire.
On disait que Jean Sulpice prend des libertés avec le cake, en même temps, avec ses deux étoiles Michelin, son statut de jeune chef qui fait des étincelles sur la scène gastronomique française, il peut se le permettre. Et on commence avec une première recette. Alors, on va prendre une recette sucrée. Là, vous avez respecté la forme parallélépipédique. Il y a également... Si je suis votre définition, Loïc Bienassi, vous avez également respecté, vous avez coché la case poudre à lever, parce que ça, c'est une originalité du cake, hein, avoir de la levure, en fait, hein, ou du bicarbonate de soude, un agent de...
Absolument,
qui permet de lever le gâteau. Par contre, pas de fruits confits et pas de raisin sec.
Mais grosse gourmandise, chocolat.
Ah,
pur
choco
bonheur.
Cake.
Un choco cake. Et donc une recette classique. Hein,
comment vous l'avez inventée?
Eh ben, en fait, ce que j'aime dans le chocolat, c'est d'avoir un goût prononcé de chocolat. Pour moi, c'est très important. Je vais apporter aussi une petite subtilité avec le rhum qui va venir exalter aussi ce goût de chocolat. Et donc je mets de la poudre de chocolat et de la couverture dedans à l'intérieur, donc du chocolat qu'on fait fondre avec le beurre. Et surtout, ce qui est important, c'est un matin, je me suis cassé la figure après avoir fait un footing, je me suis retrouvé accroché à un arbre, et cette écorce d'arbre, cette texture, elle m'a vraiment apporté une sensibilité, et j'ai voulu apporter cette texture sur ce cake, donc je suis venu lui mettre une ganache chocolat par-dessus, et lui mettre des éclats de copeaux de chocolat qui va apporter un goût, comme... une texture et une force supplémentaire de chocolat. Et c'est ça aussi que j'aime, c'est qu'on prend le biscuit et sur le biscuit, on vient lui apporter des petites garnitures, des fleuritures comme ça sur le dessus qui apportent du goût supplémentaire.
Il faut le décrire, hein. Il est incroyable ce gâteau. Il a des espèces de d'écailles très croquantes.
Comme une écorce.
Comme une écorce d'arbre.
Donc c'est le cake chute de vélo, c'est un hommage.
Ça et il est délicieux. On sait que Luc Bianassi est un super bec sucré. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah bah alors moi, la ganache comme ça, le mariage avec la subtilité de la pâte, là, c'est cette ganache est délicieuse, je trouve ça.
Alors ce qui est important. Sur ce gâteau-là, c'est pas de le manger trop froid et de le manger à température ambiante. C'est ça qui ouvre vraiment toutes les saveurs.
Les arômes,
elle se diffuse et on prend vraiment beaucoup de plaisir.
En préparant cette émission, Jean, vous m'avez également dit que tout cake, de manière générale, les sucrés comme les salés, étaient meilleurs après un petit temps de repos et ne devaient surtout pas connaître le froid du frigo. Hein.
Exactement, ouais. C'est vrai que... Alors, il y a certains cakes où moi, je les préfère froids, comme le cake à la banane.
Ah.
La saveur de la banane... Elle se diffuse beaucoup plus s'il est un peu plus froid que resté à température ambiante.
Vous avez remarqué cette texture superbe, c'est-à-dire que le cœur est un petit peu moins cuit que les extérieurs. Donc vous, évidemment, vous la maîtrisez à perfection, cette cuisson. On a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui ont l'air de ramer un peu avec leur four. Magali nous écrit, j'adore les cakes, mais j'ai quelques difficultés lors de la cuisson de mon four électrique.
C'est pas ma Magali à moi.
Je pense pas.
La femme de Jean s'appelle Magali.
Souvent, le cœur n'est pas cuit, mais les bords commencent à brûler. Il y a un truc
comment vous
pour s'en sortir.
Alors, ce qui est important, c'est déjà que le four il soit chaud. Donc, on allume son four auparavant pour que quand on met notre cake, il soit four à 160 degrés.
Plutôt chaleur tournante.
Chaleur tournante, exactement. Et puis, en environ 40-45 minutes. Et à la fin, ce qui est important pour voir la cuisson du cake, c'est qu'on trempe un couteau. Et puis, quand on le lève, on a le couteau qui est blanc et que la pâte, elle s'accroche pas dessus. C'est le cake qui est cuit, ouais.
Et la
alors, après, ensuite... Ça dépend aussi de toutes les recettes, mais normalement, si la recette, tous les ingrédients sont bons dedans, on peut pas louper ce biscuit.
Justine?
Mais là, oui, ce que je trouve incroyable, c'est que le cœur du cake, il est encore vraiment humide, hein, c'est presque un peu luisant. Alors ça, je me demande comment.
Un petit secret aussi, ouais, c'est qu'à la fin de la cuisson, quand il est encore chaud, on vient faire ce sirop et on verse ce sirop dessus qui s'imbibe à l'intérieur du cake et ça le rend encore plus moelleux et ça lui apporte encore des saveurs supplémentaires.
Mais rassurez-vous, chers auditeurs, il est largement faisable et tout à fait à votre portée techniquement, ce choco cake signé Jean Sulpice, dont on a la recette évidemment dans le livre Cake aux éditions Flammarion, mais également sur franceinter.fr à la page on va déguster. On parle beaucoup d'Angleterre en ce moment, ça ne vous a pas échappé, Luc Bianassi. Cake, c'est bien un anglicisme. Comment cet anglicisme s'est taillé finalement la part belle dans notre patrimoine culinaire?
C'est effectivement un gâteau qui nous vient d'Angleterre. Dès le Moyen-Âge, on trouve ce que j'appellerais des pains améliorés, des pains enrichis, avec des fruits confits par exemple, du beurre, du lait... En Angleterre, pas qu'en Angleterre, mais en Angleterre. On parle de cake, voilà. Et puis, à partir du XVIIe siècle, on commence à employer notamment l'expression de plum cake.
Ah.
Plum cake, là, pour des gâteaux sans doute un peu plus sophistiqués, c'est-à-dire que c'est pas simplement, on ne part pas simplement d'une pâte à pain qu'on enrichit. Et le plum cake et d'autres types de gâteaux comme le bride cake, le cake de la fiancée, comme on disait au XIXe siècle dans les livres français, vont s'imposer comme des gâteaux, notamment de réjouissance, en Angleterre. Et on a là des gâteaux avec des fruits confits. Alors, des recettes assez diverses, au final. Mais en tout cas, les fruits confits, notamment des agrumes, citron, orange, et puis des raisins secs. C'est vraiment omniprésent dans ces recettes.
Mais alors, plum cake, a priori, plum, ça voudrait dire prune?
Alors ça, c'est un petit mystère. Peut-être, on n'a pas de recette claire, peut-être qu'en effet, ces gâteaux comportaient des prunes à l'origine.
Avant les raisins secs, peut-être.
Exactement. Mais on n'a pas trace de ce type de recette. Donc finalement, le mot est resté, plum cake. Mais clairement, ce sont avant tout des gâteaux aux raisins secs.
En revanche, le cake, quand il est arrivé dans le patrimoine français, s'est débarrassé de plum.
Alors, pas tout de suite, en fait. Là, c'est une histoire assez amusante parce que les plum cakes sont présents dans le livre de cuisine français dès le 19e siècle, dès les années 1820-1830. Des recettes qui ont peut-être un peu évolué, mais globalement qui reprennent les recettes anglaises. Et parallèlement, en effet, on trouve le mot cake, mais pour des recettes assez différentes qui sont justement plutôt des pains améliorés, enrichis, avec, là aussi, des raisins secs, etc. Donc on a des cakes et des plum cakes dans les traités de pâtisserie français du 19e siècle. Mais ce qui va devenir le cake, faut suivre, hein, ce qui va devenir le cake au 20e siècle, c'est le plum cake. C'est-à-dire que Là encore, si on ouvre le Larousse gastronomique de 1938, si on va à l'article cake, il renvoie à Plum Cake. On va à l'article Plum Cake, et là, on trouve en effet cette recette de ce qu'on appelle aujourd'hui un cake. Donc, le mot cake, c'est vraiment le plum cake anglais qui a évolué et qui, à partir d'après-guerre, vraiment a totalement disparu. Le mot plum cake, on n'emploie plus que le mot cake. Donc voilà.
Et en Angleterre, le plum cake est encore un classique.
Alors, c'est un classique. Je crois qu'on parle plus plum volontiers
pudding.
De. Ouais. Alors, le plum pudding, c'est
encore autre chose.
C'est autre chose. Mais
on n'est pas rendu.
De fruit cake, en fait. Maintenant, le terme plum cake est assez désuet.
Donc, fruit cake, c'est vraiment le cake aux fruits confits.
C'est ça, fruits confits, fruits secs, et qui est un gâteau là aussi qui sert toujours pour les festivités, notamment le Christmas cake, qui n'est pas le Christmas pudding. J'aurais dû faire un schéma, mais c'est de la radio. Et donc, on a. Mais par contre, ce qui est clair, c'est que depuis le 18e siècle, clairement, ce plum cake, on va dire, fait partie du patrimoine culinaire anglais, incontestablement, et qu'il est passé dans le patrimoine culinaire français. On a un traité de pâtisserie français, la fin du 19e siècle, qui dit que réellement, les Français, désormais, se sont appropriés le plum cake.
Très bien, bah vous êtes parfaitement clair hein, dans cette généalogie du cake, cher Loïc. Jean, sauf erreur de ma part, il n'y a pas une seule trace de fruits confits dans votre livre.
Si je mets dans la recette avec le gratin de fruits.
D'accord.
Donc en fait, je fais un cake aux fruits que je taille en petits dés, et après je fais un sabayon que je vais cuire au four, et c'est les petits morceaux de cake qui sont à l'intérieur, qui à chaque fois que tu tournes dessus, qui sont imbibés avec le rhum, paf, qui explosent en bouche. Quoi.
Ah oui.
Donc je joue sur un choc thermique entre le chaud, le froid, et puis aussi cette saveur qui est cachée de rhum et aussi la mâche des fruits confits.
Très bien, nous étions en Angleterre avec Loïc Bianassi, on y reste avec Elvira Masson. Queen Elizabeth s'en est allée cette semaine, hein. Ça n'a échappé à personne, sauf ceux qui habitent sur la planète Mars. Il y a eu un torrent d'hommages dans le monde entier, on a tout dit, tout raconté sur la reine d'Angleterre, y compris dans le détail de ses petits péchés mignons.
On va déguster. Sur France Inter.
Bah, parmi les passions d'Elisabeth II, on a beaucoup évoqué les corgis, les chevaux, les courses hippiques, les chapeaux, la marche à pied. On a moins parlé d'un certain gâteau, qui était vraiment son péché mignon sucré, le chocolate biscuit cake.
Ça, vous êtes allé fouiller dans la presse anglaise. Hein.
Un gâteau composé de biscuits secs et de chocolat, qui est un afternoon tea cake, dont elle mangeait une part ou plus, souvent beaucoup plus, avec une tasse de thé. Il lui était servi tous les jours. Où qu'elle soit, même lors de ses déplacements officiels. Darren McGrady, qui a été son chef cuisinier pendant 11 ans, se souvient d'avoir souvent fait le trajet en train depuis Londres, donc de Buckingham, jusqu'à Windsor, avec ce chocolate biscuit cake dans une boîte en métal sur ses genoux, tant la reine en était friande. Alors c'est un gâteau, et pas un cake au sens français du terme. Alors pas sophistiqué du tout, pour tout vous dire, c'est un des premiers gâteaux que j'ai fait enfant, sans savoir que c'était un gâteau royal, parce que c'est un gâteau sans cuisson qui prend au froid, un gâteau hyper simple avec peu d'ingrédients, un gâteau très dense, très sucré, un petit peu écœurant.
Non, il y a de la croustillance aussi. Hein.
Oui, il y a des biscuits. Donc c'est du beurre, du sucre, du chocolat et des biscuits écrasés. Alors pas n'importe quel biscuit. Hein. Les Britanniques sont très précis en la matière. On utilise des rich tea biscuits. Ce sont des biscuits secs, mais en aucun cas des shortbread parce qu'ils sont trop sucrés, ni des digestive qui sont trop friables. Digestive, c'est rarement un biscuit qu'on trouve dans toutes les grandes surfaces en Angleterre. Les rich tea ressemblent plutôt à nos petits beurres. Alors je lisais un article sur le mariage du prince William qui avait fait servir ce gâteau qui mangeait à chaque fois qu'il prenait le thé avec sa grand-mère, il avait fait servir à son mariage. Or, c'était un article dans la presse américaine qui parlait donc d'un gâteau au chocolate et aux cookies. Tout simplement parce que cookie en anglais américain veut dire biscuit et non cookie au sens français du terme.
Oui, c'est ça. Hein, on fera une émission cookie, on invitera Loïc Bianassi.
Et le cookie au sens français du terme s'appellerait plutôt aux États-Unis chocolate chip cookie.
Oula.
Ça m'a fait sourire cette histoire de confusion lexicale parce qu'on était en pleine confusion il y a deux minutes. Comme les cakes français qui sont plutôt aujourd'hui en anglais des loaf cakes. Le loaf, c'est la forme rectangulaire. Sachant que le premier loaf cake aurait été un pudding, un plum pudding. Bon, là, je demande vérification historique. Et que le pudding est une grande passion britannique, preuve de son importance, une nouvelle d'Agatha Christie en 1960 qui s'appelle Christmas Pudding. L'intrigue est à son comble quand Hercule Poirot trouve un petit mot glissé sous l'oreiller où il est écrit « Ne mangez pas une miette de plum pudding, quelqu'un qui vous veut du bien ». Alors, il y a 100 déclinaisons du pudding, parmi lesquelles le sticky toffee pudding, dont on a déjà parlé.
Et oui, que vous nous avez cuisiné.
Oui, oui. À la date et au caramel, mm-hmm. qui était le dessert préféré de Queen Mom, la mère d'Elisabeth II.
On vous renvoie d'ailleurs à une émission que nous avions faite en direct de la Villette sur la cuisine britannique. Bien où on avait évoqué les goûts royaux d'Elisabeth II.
Absolument. Mais pudding est encore un faux ami. Un mot valise parce qu'il n'est pas rare en Angleterre qu'on vous propose du pudding pour toute forme de dessert, y compris un gâteau au chocolat. Si on vous dit « do you want some pudding », c'est pas forcément un pudding, ça peut être n'importe quel dessert. Et puis, il y a le Yorkshire pudding, qui n'est pas un dessert. C'est une garniture de pâtes cuites dans le gras du rôti du dimanche, du roast beef, un genre de croustade salée. Et moi, avec ce chocolate biscuit cake que je vous ai donc préparé, qui est très sucré, j'avais envie de crème anglaise pour faire un peu glisser. Et la crème anglaise...
Pour ajouter de la légèreté.
Et la crème anglaise a été popularisée au XVIe siècle à la cour d'Angleterre, d'où son nom en français de crème anglaise, mais qui ne se dit pas English cream ou British cream en anglais, parce qu'on dit custard. Lequel mot de custard viendrait, je vous le donne dans le mille, du français croustade. Aucun rapport.
Excellent. Donc si on retient une chose, c'est qu'il y a une différence entre pudding et cake.
Oui.
Pudding, c'est vraiment une acception très générique pour parler d'un dessert.
C'est à la fois...
Et le cake, globalement, c'est la grande famille des gâteaux.
Le cake, c'est juste un gâteau, c'est tout.
Et loaf cake.
Loaf cake, c'est la forme parallépipédique de gâteau.
Vous avez tout suivi ou pas, Jean?
Tout suivi.
J'ai goûté aussi. J'ai goûté. Il est excellent.
La crème anglaise est très importante.
Elle apporte de la fluidité. Non, c'est bon. Hein. Moi,
non,
j'aime beaucoup ce gâteau.
C'est gourmand.
Loïc.
C'est bien la texture du gâteau sec à l'intérieur.
C'est bien la première fois que Loïc ne se jette pas sur un dessert.
Donc un gâteau sans cuisson. C'est pas évident de suivre, là, j'avoue.
Justine,
je suis très heureuse d'avoir eu une petite part.
Eh ben, dis donc,
c'est délicieux, mais disons que ça reste un en fin petit d'émission. Moment en bouche.
Non, c'est vraiment
c'est
moi,
très bon.
Moi,
c'est bouche,
moi ce que j'aime, c'est la note croquante du biscuit.
Ouais.
Franchement, avec le contraste, avec le côté très moelleux du chocolat. Bravo, Elvira. On y voit enfin plus clair. Dans un instant, le cake dans sa version salée. L'accord aussi de notre nouvelle voix du vin que vous entendiez à l'instant, Justine Knapp. Mais tout ça, bah, c'est juste après ça. It ain't over, de Black Keys, sucré ou salé, rond ou rectangulaire. Le cake fait son show aujourd'hui avec notre historien Loïc Bienassi et le chef Jean Sulpice, auteur de Cake, un livre événement chez Flammarion.
On va déguster. Sur France Inter.
Pas mal de réactions d'auditeurs et celle de Romain qui va vous intéresser, Loïc Bienassi, qui va peut-être aussi vous faciliter la tâche. Bonjour, juste une petite remarque. On peut dire pavé droit pour dire parallèle à l'épipène. C'est plus moderne comme appellation, moins poétique peut-être, signé un prof de maths. On peut lui d'accord. faire confiance.
Bon bah voilà, voilà. Très bien, j'essaierai de m'en souvenir.
Elvira.
Et merci.
Beaucoup de questions, de questions sur la technique de cuisson, on l'a dit, mais également Nicolas Pulicani qui nous demande s'il est possible, Jean, d'avoir une technique pour empêcher les fruits confits de tomber dans le fond à la cuisson.
Alors c'est quand bien de mettre un cake classique. Quand on fait un cake classique, c'est bien de mettre l'appareil à cake un peu au froid, qu'il soit refroidi, et après on incorpore les fruits confits, comme ça ils restent bien. Et aussi, on peut aussi mettre ces fruits confits dans la farine et les intégrer aussi à la fin.
Le fait de les fariner fait qu'ils
Qu'ils vont s'accrocher à l'appareil et ils vont pas tomber au fond. Okay.
Très bien, mais c'est tout. Bon, en même temps, il a de la technique.
On a fait des essais. Hein.
L'ami Jean, il a fait des essais.
On n'a pas fait que des photos, on les a goûtées.
Est-ce que vous connaissez, Jean, j'avoue, je ne les ai pas comptées, il y a 50 recettes dans votre livre chez Flammarion. Oui. Quelle est la proportion de sucré et de salé?
On a fait à peu près la moitié-moitié. Hein.
D'accord. Oui. Et ben donc, des recettes salées. On y vient, justement. Le cake salé est une tradition. Enfin, on va le voir avec Loïc. On va se demander jusqu'à... Depuis quand, en fait, on peut en faire en version salée? Alors, vous dynamitez carrément la tradition du cake salé, cher Jean, avec une première recette assez surprenante, un accord détonnant qui vous rappelle, je crois, votre grand-père. Racontez-nous.
Exactement, ouais, c'est vrai que mon grand-père, quand il me faisait déguster du bleu, il le mettait sur une branche de céleri et la fraîcheur du céleri apportait un équilibre avec la puissance du bleu. Quoi.
Quel bleu?
Moi, j'ai travaillé avec du bleu de Gex, mais on peut prendre n'importe quel bleu.
Un bleu de chez vous,
par exemple. Ouais,
sachant que votre grand-père était savoyard.
C'est ça. Donc là, j'ai pris un bleu de Gex. Et donc dans ce cake, j'ai fait une brunoise de céleri et une brunoise de bleu que j'ai intégrée à mon appareil à cake et que je cuis au four après. Voilà, donc ça donne vraiment une saveur au début on a le céleri qui adoucit un petit peu le bleu et en fin de bouche on a l'explosion de ce bleu qui vient. Et puis sur le dessus on peut rajouter un petit peu des noix aussi et ça apporte vraiment une saveur, de la texture aussi.
Texture un peu mouillée, il est exceptionnel ce cake. Alors, il est à la fois doux, il a la persistance et la puissance du bleu.
C'est ça. Mais en fait, tous ces cakes aussi, on peut vraiment les déguster pour un pique-nique, mais aussi on peut les déguster avec soit une petite salade, on peut l'agrémenter avec ce qu'on veut. C'est ça aussi qui est intéressant, parce que c'est un cake quand même qui est très puissant, qui a du goût, et on peut vraiment l'associer avec d'autres choses et le mettre pour faire une entrée aussi.
On nous pose la question, évidemment, on l'a pas précisé, c'est important. Céleri boule ou céleri branche? Moi,
céleri
branche, hein.
J'ai dit, c'est une céleri branche.
Céleri branche, ouais, c'est branche, ça. Ouais. Donc, on pourrait utiliser à la limite de la livèche aussi?
La livèche, tout à fait.
Ouais. Ou de la
Mais je fais un cake à la livèche, donc je voulais pas que ça soit redondant. J'ai aussi fait un cake 100% livèche et je me sers vraiment de cette puissance, de cette feuille de livèche très très forte.
Il est incroyable et vous vous autorisez quand même une forme assez peu réglementaire. Charles-Louis, je vous montre la photo.
C'est l'anarchie.
Voilà. Alors on la cuit dans une cocotte comme ça et comme ça ça donne une forme ronde, un peu comme le bleu aussi qui est rond.
Mais rassurez-nous, on peut utiliser un moule à cake.
On peut utiliser un moule à cake. Là aujourd'hui sur plateau j'ai utilisé un moule à cake.
Et oui, il est parallélépipédique. C'est un pavé droit.
C'est un pavé droit.
Pavé droit.
Je dirais. Le mélange légumes-fromage fonctionne bien, a priori chez nos auditeurs aussi. Déo nous parle de sa création maison, appareil à cake salé classique, tête de brocoli cru, cantal entre deux émietté comme pour un crumble, grains d'anis vert, sel, poivre, essayez, c'est un régal. Ça peut être bien, non?
Alors ça peut être très bien, et dans l'esprit, j'ai fait aussi un cake autour du chou-fleur et du curry, mais j'ai mis le chou-fleur
incroyable,
entier.
Racontez-nous, ça c'est une sacrée technique.
En fait, je me suis servi de la cuisson du cake qui vient cuire le chou-fleur. Donc je mets un chou-fleur cru dans un moule rond, donc dans une cocotte, je verse mon appareil à cake, et quand le cake y cuit, le chou-fleur cuit en même temps, et quand on coupe, on a vraiment le chou-fleur entier, et l'appareil qui est venu l'étouffer, et qui est venu grand... pousser, cuire dedans à l'intérieur.
Et quand vous le
coupez, donc on a vraiment le goût du chou-fleur et puis la mâche du chou-fleur et le cake vient assaisonner l'ensemble.
La photo est assez spectaculaire. Hein. On voit le cake avec tout, on voit le chou-fleur avec toute son arborescence. On peut peut-être citer le ou la photographe.
Oui, c'est Franck Jury, photographe de cœur qui me suit depuis des années.
Très bien. Bon, on va lancer une petite mission à notre amie Justine Knapp qui fait, rappelons-le, sa première au micro dont on va déguster pour tenter un accord eh bien, avec votre cake céleri bleu. On reste dans les Alpes, hein, je crois. C'est Justine qui sort le tire-bouchon et les verres.
On va déguster sur France Inter.
Alors, on va visiter le vignoble voisin de la Savoie qui est plus méconnu, qui a même failli disparaître. Donc je crois que c'est un coin qui vous est pas complètement inconnu non plus, Jean Sulpice.
Oui, on a enquêté.
Je veux parler des coteaux du Grésivaudan en Isère.
Ah, ah, et avec une cuvée qui va peut-être lui parler. Alors est-ce que vous pouvez d'abord, Justine, nous rappeler, nous relocaliser la géographie de ce vignoble?
Oui, le coin, il n'est pas forcément évident à placer sur une carte. Vous pointez la Savoie, on est juste en dessous, entre Chambéry et Grenoble. Donc il y a une route qui relie les deux villes et deux massifs montagneux de chaque côté. L'un d'eux, c'est la Chartreuse, hein, qu'on connaît bien pour une autre boisson alpine. Les vignes, elles sont là, elles sont sur les contreforts, en IGP Isère, donc indication géographique protégée. Alors, on parle d'à peine quelques dizaines d'hectares, hein. La Savoie, elle en compte 2000, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, très peu de vignes sur ces coteaux, mais ça n'a pas toujours été le cas. Jusqu'au 19e, l'Isère, c'était même la plus grande région viticole alpine.
Sans blague.
Avant que l'industrie arrive dans la vallée, plus alléchante pour les paysans.
Et vous avez rencontré, Justine, l'un des tout premiers à s'être installé sur ces coteaux du Grésivaudan. Alors là, il y a la mémoire de Jean Sulpice, le logiciel qui commence à chercher. Il se dit, tiens, qui ça va être?
Et c'est Thomas Finot.
Vous le connaissez?
Oui, on l'a sur la carte. On le représente, il fait un travail remarquable. Il a plein de cuvées différentes.
Alors Thomas Finot, il a une quarantaine d'années. Il est arrivé en 2007. L'histoire, c'est qu'il faisait souvent la route depuis la Suisse où il travaillait en viticulture jusque dans la Drôme dont il est originaire. Il passait donc en bas des coteaux. Et puis, en levant la tête, il apercevait un petit peu de vigne dans la pente, donc il s'est renseigné et il a découvert qu'il y avait une vraie histoire viticole ici, notamment autour des cépages. On va goûter ça ensemble juste après. Ces vignes, ce sont des vieilles vignes, hein. Il a pu les récupérer grâce aux anciens et à une cave coopérative qui ont maintenu le vignoble en vie. On est à 500 mètres d'altitude, les parcelles, elles sont éparpillées dans la forêt. Donc c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de vignerons et de vigneronnes en France qui replantent des arbres pour favoriser la biodiversité. Mmh. Bon là, il n'y a pas vraiment besoin, hein. Pour aller d'une parcelle à une autre, il faut prendre un sentier pédestre, on croise des marcheurs, il y a des parois d'escalade, on a vu sur les sommets d'en face. Donc c'est vraiment un environnement alpin et Thomas Finot, ça, il l'a bien senti. Il a continué à replanter des cépages adaptés plutôt que les chardonnays ou les pinots noirs qui avaient un peu pris le dessus.
Alors de quel cépage parle-t-on? Est-ce qu'on parle de Mondeuse, Jacquère, tous ces cépages de Savoie?
Alors pas tout à fait. On va goûter ce que j'ai versé dans vos verres pour le savoir.
Alors allons-y, goûtons.
Voilà, ce sont des raisins blancs qui sont macérés, donc c'est exactement comme dans la fabrication d'un vin rouge.
Parce que la robe est tout à fait étonnante, hein. Vous pouvez nous la décrire, Jean?
Oui, c'est une couleur même qui a une texture assez épaisse.
Mmh. Oui,
une belle robe.
Une belle robe un peu dorée.
Ouais, on dirait presque une vendange tardive. Ouais. C'est marrant.
Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si ça vous évoque un cépage en particulier. Alors, Jean Sulpice, hein, vous pouvez jouer, mais la partie sera rapide si vous l'avez à la carte.
Cépage, il connaît peut-être pas tous les cépages des cuvées qu'il a sur sa
carte. C'est monocépage ou c'est un...
Ah, je ne donne pas d'indice.
C'est bon, en tout cas. Hein.
Ouais, c'est très bon.
Alors...
C'est Roussette, Jacquère.
Et c'est effectivement, il y a un petit peu de Jacquère dans cette cuvée, sauf que c'est le nom local de la Jacquère, c'est la Cugnette en Isère.
La Cugnette.
Et il y a aussi... Ouais, bravo. Et il y a aussi un autre cépage, et c'est celui-là qui m'intéresse un peu plus aujourd'hui, c'est de la Verdès. Et la Verdès, c'est un des cépages endémiques de l'Isère, comme les traires de la Duye en rouge, ou le persan, qui a toujours fait partie de l'encépagement. Donc ces cépages, ils sont réputés comme étant trop acides. On disait qu'il fallait attendre 10 ans de bouteille avant de pouvoir les boire, qu'ils étaient aussi raides que la pente. Et effectivement, pour la Verdès, les raisins, ils restent verts longtemps. D'où son nom, Verdès. Mais si on sait attendre, le grain, il finit par devenir doré, exactement de la couleur de celle qu'on a dans les verres maintenant. Et c'est là qu'il faut le vendanger pour capter toute sa complexité aromatique. Alors, je vous demandais si la Verdès, elle vous évoquait d'autres cépages, parce qu'elle peut faire penser au Chenin dans la Loire ou au Savagnin dans
le
Jura.
Avec son côté oxydatif.
Exactement, qui est l'un de ses parents. Alors, moi, voilà, si je prends le verre que je sens un petit peu au-dessus, ça m'évoque la Mirabelle, le Sureau, la Rose séchée. En fait, c'est un vin qui est vraiment aromatique, mais qui reste sec. Et la bouche est ample, mais toujours tendue.
Et on a aussi de beaux amers comme ça, oui, qui se frayent un petit chemin en fin de bouche.
Exactement. Les amers sur la longueur, ça c'est dû à la macération. Ça fait un peu pamplemousse. On a aussi des petites épices, un peu de poivre blanc. C'est délicat, très fin. Et cette finesse, on la retrouve aussi dans les rouges. Toujours avec l'acidité caractéristique qui apporte une fraîcheur que tout le monde leur envie. Enfin, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le vigneron. Je voulais ajouter qu'il vinifie cépage par cépage. Donc, pour vous faire une idée plus précise du goût de ces variétés, vous pourrez goûter la Verdesse, l'Étrère de l'Aduy et le Persan séparément. Mmh. La cuvée que j'ai amenée, elle est à 20 euros. Il a d'autres cuvées à partir de 9 euros, tous labellisés Déméter en biodynamie. Et sinon, voilà, on compte maintenant près de 6 domaines sur les coteaux du Grésivaudan qui travaillent aussi ces cépages. C'est vrai que Thomas Finot, il a ouvert la voie en défrichant le secteur, hein, littéralement, mais aussi auprès des cavistes qui boudaient un peu la région.
Domaine Finot, c'est
bravo,
fabuleux.
Super.
Ça fait combien de temps que vous l'avez sur votre carte, que vous l'accueillez, comme de très nombreuses cuvées locales d'ailleurs, sur la carte des vins que pilote Magali, votre femme,
hein. Oui, on l'a mis pratiquement au début qu'on a repris l'auberge. Ouais. Déjà à Val Thorens, on l'avait découvert et puis on a vraiment agrandi la carte des vins sur les vignobles savoyards. Et donc on l'a mis à l'honneur.
Et quel accord on pourrait imaginer dans votre cuisine à vous, votre répertoire alpin, Jean, avec cette cuvée de Thomas Finot ?
Eh ben, je fais une mousse de Beaufort.
Ah.
Une mousse de Beaufort, et je pense que avec aussi, je mets des petites noix sur le dessus, de la poudre de carvi, quelques herbes, et je pense que ça pourrait très bien fonctionner. Ouais.
Il y a d'ailleurs un cake à la mousse de Beaufort dans votre livre.
Oui,
il fait envie de faire. Hein. Vous ne l'avez pas fait.
J'ai pas pu tout amener, mais j'en ai amené d'autres aussi. Hein.
Dans un instant, on va goûter un cake salé très étonnant. Oui, Elvira, question.
Oui, il y a pas mal de... Enfin, c'est pas vraiment des questions, c'est plutôt des commentaires d'auditeurs et d'auditrices qui disent « Ah non, pas les cakes salés, mauvais souvenirs,
si,
de cakes
marche.
Trop salés, jambon, olive. » Est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire, des erreurs à ne pas commettre en termes d'association ou de mélange de saveurs?
C'est pour ça que j'ai pas fait de cakes au jambon, olive.
C'est ça, c'est pas terrible, jambon, olive. À une époque, on en voyait beaucoup, hein, dès qu'on prenait l'apéro.
Ouais, c'était ce qu'il y a de plus simple.
C'est le syndrome de Stockholm, on est prisonnier de ce qu'on a aimé.
Alors après, c'est sûr qu'il faut, comme déjà on met des ingrédients qui sont salés, il faut pas rajouter du sel. Les ingrédients qu'on met dedans se suffisent pour assaisonner le cake, donc il faut pas rajouter du sel. Et après, il faut choisir des ingrédients qui apportent aussi un équilibre avec tout ça. Donc
dans un instant, vous allez voir la recette décoiffante de Jean. Au registre salé, ça vaut quand même son pesant de cacahuètes. Mais juste avant, un petit point historique avec notre historien maison, Loïc Bienassi. On évoquait dans la première partie de cette émission les cakes sucrés, on évoque désormais les versions salées. Vous situez à quand la mutation du cake sucré au cake salé dans l'histoire de notre cuisine?
Alors c'est vrai que quand je donnais la définition du Larousse Gastronomique 2012, il ne l'évoque même pas, hein, d'ailleurs, le cake salé.
C'est vrai.
Je pense que ça émerge, pour ce que j'ai pu retrouver, à partir des années 80, et que vraiment ça explose à partir des années 90. Je vois, il y a un cake aux olives à la carte de la Tour d'Argent en 92.
Non, et vous êtes en train de dire que le cake aux olives avait ses lettres de noblesse gastronomique.
Agneau de Pauillac, rôti à l'os avec son cake aux olives, en 1992, à la Tour d'Argent. Mais au partir, vous voyez, c'est ça, deuxième moitié des années 80, je pense, on voit des cakes aux olives, cakes aux fruits de mer qui commencent à apparaître. Ah. Et c'est vraiment, en effet, devenu quand même un classique. On en trouve en surgelé, voilà. C'est un peu un incontournable, toujours, je pense, hein, quand même, des apéros.
Et moi, je dois dire qu'on s'est bien moqué de moi sur les réseaux sociaux lorsque j'ai fait pour France Inter avec les équipes de la cellule vidéo un cake au chorizo. Tiens, décidément, on approche la recette de Jean Sulpice.
Quoi, on vous a traité de ringard?
Ouais, clairement. Mais je peux vous assurer que mon cake au chorizo...
Les goûts sont pesants.
Bah, vous coupez la première tranche, la
pas.
Dernière tranche, mais jamais très loin. Oui, c'est ce que je veux dire. Alors Jean, on a fait pas mal de suspense autour de votre cake salé assez original. On a parlé de fruits de mer avec Loïc Bienassi. Moi, j'ai évoqué le chorizo. Et votre recette, c'est...
Eh ben, j'ai associé la moule avec le chorizo. C'est vrai que je faisais une recette à Val Thorens autour du lapin, de la moule et du chorizo. Et puis, c'est une association que j'appréciais bien. Et donc, cette association, je l'ai mis dans le cake. Alors, ce qui est important quand vous faites cette recette, vous cuisez vos moules séparément. Il faut bien les décortiquer et pas mettre le jus de la marinade à l'intérieur parce que sinon, ça apporte du liquide et c'est pas bien. Vous intégrez bien à la fin donc les moules qui sont froides, c'est une brunoise de chorizo. Dans cet appareil, vous mettez bien cette poudre de safran et ça va lui apporter une saveur vraiment très très subtile. Et on a une couleur qui est remarquable. Et en termes de saveur, bah, ça décoiffe, quoi. Ça décoiffe. J'aime beaucoup justement cette intensité entre le saveur, le chorizo. Et là, on voit que c'est pas trop salé. L'équilibre, il est parfait. On n'a pas envie de boire un litre d'eau derrière. On a l'équilibre qui est très très bien entre le chorizo, le safran et la moule.
Ça veut dire que vous avez très peu salé. Parce que vous saviez que le chorizo lâcherait du sel.
Exactement. Ouais. Déjà, le chorizo est assaisonné. La moule aussi, ça vit dans un environnement d'une eau salée. Donc, on fait attention à toutes ces subtilités-là pour apporter l'équilibre et respecter l'ensemble de ces ingrédients.
Et est-ce que la moule, avec son jus, a tendance à détremper le cake? Parce que là, on a une texture qui est humide, mais sans plus, finalement. Mmh. Alors qu'on pourrait se dire que ça pourrait être un peu aqueux.
Pardon. Je déguste. Ah non, comme je dis, donc quand on cuit les moules auparavant, on les décortique, on les égoutte bien, c'est très important pour pas qu'il y ait encore toute l'humidité et la marinade.
Mais même à la cuisson, elle ne lâche pas de jus.
Bon.
Qu'est-ce que vous en pensez autour de ce plateau?
Beaucoup de puissance, il a vraiment une ampleur, c'est impressionnant. Quoi. Mais déjà, même au nez, déjà, on sent vraiment...
Et ça fait l'affaire avec... je trouve que votre cuvée...
Oui.
Du grésivaudant, tient bien.
Oui, effectivement. Je trouve que les deux aromatiques, elles se répondent bien. Oui. Et puis en plus, l'acidité de la verdesse avec le côté peut-être un petit peu plus gras de la viande et le côté iodé des moules, c'est vrai que ça vient attendrir le tout.
Alors, dans la recette, ce que j'aime bien faire, c'est. Parce que on a toujours un petit peu de cette marinade. C'est dommage de pas la conserver parce que c'est là où là vraiment là tout le goût. Du iode de la moule. On met un tout petit peu d'huile d'olive dans cette marinade, on rajoute des herbes et on met une tranche de cake dans une assiette et on rajoute ces moules dans cette marinade. Même froide, on peut le déguster froid, avoir le cake à température ambiante. Et on a une belle association et on peut se servir justement du cake pour imbiber le jus et on a quelque chose de très moelleux. On renforce le iode aussi à l'intérieur. Et voilà, donc on peut...
Sacrée réussite, hein. Avec des moules de Haute-Savoie.
Et non, là je suis allé chez mon épouse en Bretagne parce que je suis marié avec une Bretonne, donc on allait voir un petit peu le terroir. Mais c'est ça aussi que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est que je ne suis pas enfermé dans mon terroir. J'ai déjà fait des bouquins et j'ai fait une cuisine qui est sur le terroir. Je suis un chef savoyard, mais j'ai voulu aussi m'intéresser autre que du terroir savoyard, des autres produits, et de montrer aussi que j'ai une sensibilité aussi bien artistique qu'une sensibilité culinaire pour associer l'ensemble de ces saveurs dans un appareil à biscuit qui est accessible à tout le monde. Ce que je dis en remerciement, je remercie mes poules parce que je suis passionné par moi. Je suis un enfant de la ferme, d'un village, et j'ai toujours eu des poules et je suis toujours émerveillé à aller chercher mes œufs. Et pour un cake, la réussite d'un cake, c'est des bons œufs, c'est la base, quoi. Mm-hmm. Et pour ça, c'est vraiment important aussi d'avoir des bons ingrédients simples, accessibles à tout le monde, et viennent agrémenter ce gâteau avec l'originalité qu'on a. Et puis dans les différentes régions,
vous faites bouger les lignes techniques et géographique du cake. Question pour notre historien de Pauline, Paris 3e. Est-ce que le marbré doit être considéré comme un cake?
Je veux dire oui.
Avec sa forme...
Oui, de pavé oblong.
De pavé droit. Pareil, bipède. Mélange pour ceux qui ne le savent pas, pâte de chocolat et pâte... Et ça fait des arabesques chocolatées sur la tranche.
Si, moi je pense que ça fait partie de la famille des cakes. Hein. Je pense que voilà, c'est incontestable. Le 4 quarts est assez proche aussi, hein, d'une certaine façon, du cake.
Il y a d'ailleurs une version du marbré, pourrait-on dire.
Ah, Mercotte, elle l'a fait ce matin.
C'est le cake grand-mère, c'est-à-dire
Elle a fait cette recette ce matin.
Alors Mercotte, vous nous la resituez, même si elle est très connue.
C'est votre grande copine. C'est notre Mercotte, c'est notre maman pour les chefs savoyards.
On pourrait dire notre mamie gâteau.
Notre mamie gâteau, qui c'est un peu grâce à elle aussi que j'ai fait ce livre, parce que un jour elle vient me voir, je lui dis Mercotte, qu'est-ce que t'en penses? J'ai envie de faire un livre sur un cake. Elle me fait mais bien sûr mon Jeannot, faire un livre sur un cake, c'est super, c'est très intéressant. Et donc du coup je l'ai eu ce matin au téléphone. Elle venait de faire ce gâteau là et une petite précision dans la recette, on a oublié de dire qu'il faut mettre un moule à pâté en croûte où on peut enlever les bords du moule, d'éclipser, pour pouvoir démouler le gâteau. Voilà.
Très bien. Elvira, une petite réaction.
Dominique Leroux nous demande ce que vous feriez comme recette de cake avec des girolles.
Ah, intéressant.
Alors les girolles, je fais une recette au cèpe, donc on peut faire exactement le même. Ce qui est important, c'est de cuire les girolles avant pour qu'elles dégagent l'ensemble de l'eau. On va leur mettre un petit coup de couteau, les hacher légèrement, parce que pour pas que ça soit trop grossier, quand on va tomber sur cette girolle, on aura trop de grossièreté. Donc c'est pour apporter un peu plus de finesse. Et puis on l'intègre aussi dans un appareil à cake. Voilà. Faut pas trop en mettre non plus, parce que il faut toujours aussi trouver l'équilibre de la quantité d'ingrédients qu'on met à l'intérieur, parce que si on en met trop, c'est là où notre cake il cuit pas, il est trop lourd et on a une texture qui est pas assez légère.
Pour épater vos amis et votre famille avec un cake, eh bien il y a Cake, les cakes étonnants de Jean Sulpice aux éditions Flammarion. Un grand merci Jean, vous êtes venu tout spécialement et vous reprenez un train à 12h45 direction Annecy.
Yes.
Eh bien écoutez, merci. Et puis je signale aussi évidemment les cakes de Sophie, ça vous dit certainement quelque chose. Sophie Dudomaine qui a vendu des best-sellers incroyables autour des cakes. Eh bien le titre phare de Sophie fête ses 20 ans et ressort dans un livre que évidemment les éditions de la Martinière présentent comme incontournable, sorti parution le 30 septembre, la semaine prochaine, l'origan et sa cousine la marjolaine. Vous n'imaginez pas tout ce que l'on peut dire sur ces deux herbes emblématiques de la cuisine méditerranéenne. Alessandra Pierini et Samir Ourigagli seront nos invités. Dominique Hutin, Zazie Tavitian dans les fauteuils des chroniqueurs. À la prochaine, Justine, Elvira,
à la prochaine.
Loïc.
À bientôt.
À dimanche prochain, si vous avez encore faim.